Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aurons-nous le courage de devenir vieux ? Telle est la question essentielle au cœur du nouveau roman de notre invité aujourd'hui. Une interrogation à la fois très sérieuse, très universelle, mais que l'auteur pose aussi en jouant beaucoup avec les références littéraires, les codes et les mythes qui nous ont construits. Ainsi, ce livre intitulé « L'île du docteur Faust » aux éditions Albin Michel est-il nourri et traversé de mille et une légendes autour de la jeunesse éternelle, du pacte avec le diable, de l'existence d'un autre monde et des allers-retours entre la vie et la mort. Mais au-delà, c'est une fiction qui nous emporte dans une atmosphère nimbée de mystères, d'illusions et de révélations. Bonjour Stéphanie Janicot.
Bonjour Catherine Fruchon.
Pour celles et ceux qui connaissent votre œuvre, une vingtaine de livres à ce jour, avec la lecture de ce nouveau roman, on retrouve certains de vos thèmes de prédilection, à commencer par la fascination des mythes, comme celui de Scheherazade, d'Ulysse ou encore des sorcières que vous avez précédemment abordées. Et voici ici celui de Faust, qui en échange de son âme au démon aurait eu en retour l'accès au savoir infini et par extension la vie éternelle. Pourquoi ce thème vous intéresse-t-il précisément aujourd'hui, vous qui êtes encore dans la fleur de l'âge, Stéphanie Janicot ?
Alors la fleur de l'âge qui est en train un peu de basculer de l'autre côté. Et Faust me fascine depuis très longtemps. Et je crois que je peux remonter même à un film que j'ai vu avec mon père, je devais avoir 8 ans, qui était Fanfan la tulipe. Et je me souviens qu'à un moment donné, mon père dit « Ah, mais c'est le mythe de Faust ». Et là, je me dis « C'est quoi ça ?» Et comme j'étais en train de tomber amoureuse de Gérard Philippe, eh ben, je pense que ça a dû faire son chemin dans ma tête. Il m'a fallu des années pour que je m'approprie ce mythe, et je pense que ce moment-là était le bon moment parce que il arrive un moment dans la vie où hommes et femmes, mais femmes sans doute peut-être plus tôt, nous basculons d'un côté où nous avons envie, enfin nous nous posons des questions, et ça va être quoi vieillir, comment est-ce que je peux en avoir envie, est-ce que je lutte contre, est-ce que ça vaut la peine de résister au temps, enfin toutes ces questions qu'on se pose, et comment on va vieillir, et puis aurons-nous le courage de vieillir, parce qu'après tout c'est aussi une question, l'adolescence c'est d'une certaine manière, sans se la formuler comme ça, c'est la question qu'il se pose, est-ce que j'ai envie de devenir adulte, et tôt ou tard, bah, soit il décide et il va devenir adulte, soit il décide le contraire, et là, certains adolescents décident le contraire. Et là, j'ai eu l'impression d'être exactement dans ce désordre mental de l'adolescence, où je me suis dit, ben, est-ce que je vais avoir le courage, ben, d'aller de l'autre côté et de continuer mon existence? Et ce livre m'a permis de poser, en fait, toutes les questions, d'explorer des tas de pistes qui m'ont, je pense, beaucoup apaisé, finalement.
Alors pour évoquer ce sujet qui est en effet plutôt grave, vous mettez en place une formidable narration littéraire qui relève presque du roman policier et commence ainsi un soir tard sur un ponton maritime, un 30 avril qui dans la culture bretonne est la fête des sorcières, 8 femmes qui ne se connaissent pas montent dans un bateau conduit par un homme étrange et muet qui les emmène sur une île mystérieuses, où elles vont faire une cure de jeunesse, puisqu'elles ont entre 50 et 70 ans. L'une d'entre elles, Sydney, est là pour une autre raison, on en reparlera dans un instant. Mais pour commencer, Stéphanie Janicot, qui sont ces femmes ? On a une professeure de français, on a une veuve de colonel, on a une actrice, une épouse d'un homme très riche qui n'a pas besoin de travailler. Qui encore
une chef d'entreprise, une avocate d'affaires.
Voilà. Voilà. Toutes différentes et en même temps, donc, toutes ont ce point commun de vouloir revenir à leurs jeunes années.
Parce que chacune se dit qu'elle réparera ce qui lui a manqué par la jeunesse. La comédienne se dit, si j'ai raté ma carrière en redevenant jeune, forcément je repars de zéro, je ne ferai pas les mêmes erreurs. La veuve de colonel qui a eu ses 5 enfants et qui a découvert l'amour tardivement, mais l'amour ne lui a pas souri parce qu'elle était déjà trop âgée, pense-t-elle, se dit, eh bien, si je redeviens jeune, je vais pouvoir vivre ça. Donc chacune se dit que la jeunesse va lui apporter ça. Mais la jeunesse, dans le mythe de Faust, c'est pas seulement la beauté ou la fraîcheur. C'est aussi l'accès à la connaissance, au travail et à l'accomplissement d'une œuvre. Et c'est ça aussi qu'elles sont parties chercher. Et la narratrice est donc un peu particulière. Elle raconte à la première personne et elle est journaliste romancière, comme je le suis moi-même, c'est donc plus facile de me mettre dans sa peau à elle. Et elle a été harponnée par le service de presse. C'est-à-dire, on lui a dit, vous pouvez faire un voyage de presse. Or, elle est à un stade de sa vie où le vide s'est fait autour d'elle. Et forcément, elle est sensible à l'idée d'aller passer 6 mois quelque part. Et puis, 6 mois où elle pourrait ne faire aussi qu'écrire. Et elle se dit, bah, quand bien même tout cela ne m'apporterait rien, au moins je pourrais écrire. Elle n'a pas signé pour faire la cure. Elle est juste là en observatrice. Et donc, évidemment, la question qui va se poser pour elle, c'est est-ce que je vais céder aux sirènes? Est-ce que je vais être finalement, je vais signer le pacte ou pas? Et donc en fait, à contrario, c'est qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de vieillir?
Donc c'est aussi un roman sur l'illusion de penser que grâce à une apparence extérieure plus jeune, plus fraîche, on peut réparer des erreurs, ce qui n'est sans doute pas le cas non plus. Et l'illusion aussi que vous retournez à merveille, puisque quand elles vont les unes et les autres rencontrer ce fameux docteur Faust, il s'avère que le docteur Faust est une femme. Quelle bonne idée, Stéphanie Janicot. Mais à quel moment c'est devenu une évidence pour vous?
Eh bien, au moment où je me suis dit quel genre de docteur Faust je veux, et comme j'ai toujours traité tous les mythes, toutes les légendes au féminin et l'histoire du monde au féminin, ça m'est apparu comme une évidence que le docteur Faust devait être une femme, et de surcroît, une femme pas très jeune. Et c'était ça que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, alors déjà, les femmes sont surprises de se retrouver en face d'une autre femme, c'est ce docteur Faust est vraiment très étrange, mais surtout, ce docteur Faust a l'air d'avoir 70 ans, pourquoi n'applique-t-elle pas ses recettes à elle-même? Et elles se mettent à douter. Et donc, c'est aussi ça qui va être intéressant pour la narratrice, c'est de se dire, bah, finalement, le docteur Faust me montre une autre voie que celle qu'elle est en train de prôner.
8 femmes qui viennent donc ici, plus le docteur Faust, plus d'autres figures féminines que l'on va croiser sur cette île mystérieuse. Est-ce que c'est un roman féministe, Stéphanie Janicot, ou en tout cas un roman qui a envie de parler de la condition des femmes aujourd'hui dans une société qui finalement a toujours les mêmes diktats de beauté, de réussite, à l'image d'une de ces femmes qui est méconnaissable tellement le Botox ou les opérations chirurgicales ont modifié sa plastique?
Alors j'ai tendance à dire que, en dépit des apparences, tous mes livres creusent ce sillon-là, qui est la vision du monde au féminin. Alors est-ce que c'est à dire qu'elle est féministe? Peut-être, oui, enfin sans doute. Elle n'est pas en tous les cas vindicative. C'est une vision qui n'est pas contre les hommes. Ces femmes-là ne s'opposent à aucun homme. Mais elle creuse ce sillon de la manière féminine de voir la vie, d'être en société. Et évidemment, il y a un enjeu particulier pour la femme d'être en société quand elle a passé la cinquantaine. C'est une évidence. Enfin, les tempes grisonnantes, chez un homme, on va dire, c'est charmant, c'est beau, chez la femme, c'est négligé. L'homme qui a des rides creusées, on va dire, ah, il est buriné, voilà, aventurier, tout ça, c'est séduisant. Non, pour la femme, ça va pas être considéré comme séduisant. Et ce sont tous ces, en fait, archétypes, clichés que j'ai essayé d'aller regarder pour voir aussi comment, tout simplement moi-même, qui forcément y suis soumise, comme tout le monde, comment est-ce que je pourrais éventuellement m'en détacher?
Précisément, tout à l'heure, vous évoquiez Sydney et éventuellement votre proximité avec ce profil de femme qui, en effet, est aussi journaliste et romancière que vous. A priori, donc, elle n'est pas concernée, elle, par l'envie de retrouver la fraîcheur de ses 20 ans. Et en même temps, elle va être rattrapée par l'ambiance, par les questions des autres femmes, par les motivations de ses prochaines amies. Et elle va se poser aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle représente exactement pour vous, cette femme?
Elle représente le passage de l'autre côté, c'est-à-dire exactement l'âge auquel je suis moi arrivée. Et ce sont ces autres femmes qui représentent toutes les parts de moi qui pourraient faire que j'aurais envie de De céder aux sirènes du rajeunissement, de la transformation de moi-même. Donc Sydney, confrontée à toutes ces possibilités, elle doit trouver des ressources très fortes intérieures pour résister. Et évidemment, c'est ce que je dois faire. Enfin, je me dis que c'est ça vers quoi je dois aller. Donc, j'ai, en tous les cas, parmi tous les personnages que j'ai créés sur cette île, il y en a un qui me plaît particulièrement et qui est pour moi très, très, très important. Et il m'est apparu de manière, un peu fortuite, je sais pas. C'est devenu une évidence, mais je l'ai pas non plus. Bref, c'est un miracle qu'il soit arrivé. Ce personnage s'appelle Zoyad, de Zoé qui est la vie et Yad qui est cette petite main qui sert à la lecture de la Torah. Et donc, c'est celle qui montre la vie. Et celle qui montre la vie, c'est une femme qui est centenaire, qui n'a presque plus de dents, qui est toute ridée et qui passe ses journées à fumer des choses étranges dans sa pipe.
Qui ne fait pas partie de la cure, qui est une habitante de l'île et que Sydney rencontre au gré de ses promenades.
Elle n'est pas effectivement curiste. Elle est au bord de la plage, dans une cabane, et elle passe ses journées à rigoler en disant des choses un peu absurdes. Et finalement, Zoyad représente pour Sydney le plaisir de devenir très très vieux et ou très très vieille. Et je crois que finalement, elle m'a donné envie, moi aussi, de devenir un jour comme elle. Alors je me suis dit aussi, pourquoi j'ai créé Zoyad ? C'est qu'il existe deux mots dans la langue française pour dire le refus, en tous les cas, de la vieillesse, et qui est l'inimitié pour l'âge, c'est l'âgisme. Donc quand on est âgiste, c'est qu'on n'aime pas les vieux, et le jeunisme, qui veut dire qu'on prise la jeunesse. Donc, mais il n'y a aucun mot pour dire l'inverse. Il n'existe aucun mot pour dire l'envie de mûrir, l'envie d'aller vers un grand nombre d'années. Et c'est pour ça que grâce à Zoyad, ça m'a permis de créer ce mot qui est le zoyadisme. Et oui, j'ai envie de devenir zoyadiste et de devenir un jour très très vieille. Mais c'est vraiment en écrivant et en découvrant ce personnage que ça m'a donné envie de devenir un jour très très vieille.
Un roman qui parle beaucoup d'écriture, de littérature, et on y arrive dans la deuxième partie de notre émission. En attendant, Stéphanie Janicot, je vous propose de faire une petite pause musicale dans notre entretien. Alors, il n'y a pas beaucoup de références dans votre récit. J'ai repéré néanmoins Welcome to the Hotel California du groupe Eagles, ou aussi, bien entendu, vous citez les opéras de Faust qu'ont pu composer Berlioz ou Gounod. Ou est-ce qu'il y aura encore une autre musique que vous aimeriez écouter ici maintenant ?
Beaucoup de musique me plaisent, je ne sais que vous dire. C'est vrai que pour Hotel California, quand elle arrive dans cette clinique le soir comme ça, et brusquement cette chanson lui revient en tête, et surtout on connaît tous la fin, c'est que on ne peut jamais repartir. Une fois qu'on est prisonnier, on ne peut jamais repartir.
Donc on écoute Welcome to the Hotel California ?
Oui,
avec plaisir. She stood in the doorway. êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Stéphanie Janicot pour parler de son nouveau roman intitulé « L'île du docteur Faust » chez Albin Michel. Une fiction, on l'a dit, qui s'intéresse à la question de la jeunesse éternelle, comme en témoigne le titre, mais qui aussi se réfère à d'autres histoires qui peuvent faire penser à leur pêle-mêle, peut-être Agatha Christie, peut-être Barbe Bleue, un film de François Ozon, 8 femmes, mais aussi les légendes de la forêt de Brocéliande et de la Table Ronde, le portrait de Dorian Gray, le roman d'Oscar Wilde, la mythologie gréco-romaine avec ses figures gémellaires ou de mère et fille, les contes de Grimm, et autant de références qui ont pu nous constituer et nous accompagner, nous divertir et nous faire réfléchir. C'est votre univers, en fait, Stéphanie Janicot.
En vous écoutant, je réalise à quel point, effectivement, je me suis servie de tout mon imaginaire, parce que les contes Hansel et Gretel, effectivement, c'est des contes que ma mère me lisait quand j'étais enfant, mais la mythologie grecque aussi, elle adorait me raconter des histoires de la mythologie. Et étant bretonne, évidemment, j'ai été nourrie, en plus j'ai grandi dans la forêt de Brocéliande, donc nourrie par les chevaliers de la Table Ronde, la ville d'Is, évidemment, c'est une légende qui, chez nous en Bretagne, est très importante. Donc effectivement, je réalise que j'adore me servir de tout cet imaginaire qui m'a constituée pendant l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, enfin, pendant toute ma vie en fait.
Et puis, c'est une réflexion sur la littérature. Puisque votre narratrice, Sydney, on l'a dit, est journaliste et écrivaine, et qu'elle nous livre ici quelques clés sur son travail, en tout cas comment elle envisage l'écriture, la lecture, difficile de ne pas penser à vous, Stéphanie Janicot, et peut-être de vous interroger aussi sur votre propre écriture. Par exemple, elle dit que la mémoire est le thème commun à tous ses romans. Et vous ?
Oui. Effectivement, là je me suis servie pour constituer cette narratrice de beaucoup d'éléments qui me sont propres. Et la mémoire est un thème qui m'est extrêmement cher. Enfin, c'était le thème d'ailleurs de mon premier roman qui s'appelait Les Matrioshka et qui était sur la transmission de la mémoire juive post-Shoah. Et puis le livre le plus, on va dire, massif que j'ai pu écrire s'appelait La mémoire du monde, puisque c'était 1800 pages sur une traversée des temps depuis Amenophis III, donc 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc la mémoire, c'est quelque chose de très important, et la transmission aussi de la mémoire et de l'imaginaire en fait. Et je pense que j'ai été constituée par tout ce collectif là, parce que c'est vrai que la littérature, elle est souvent faite de choses très singulières, c'est-à-dire que chacun raconte son histoire singulière, et moi j'ai tendance à me dire que finalement mon histoire n'est pas si singulière que ça. Elle appartient au collectif et à plein de petits morceaux de collectif. Et finalement, je suis nourrie des contes, je suis nourrie de la société qui m'a élevée. Et c'est exactement ce que je recherchais avec La mémoire du monde, qui était pourquoi je pense comme je pense. Et je suis allée le rechercher dans le collectif.
Sydney dit qu'elle avait un ami imaginaire, un serpent bleu.
J'ai eu ça aussi quand j'étais petite.
Et pourquoi un serpent bleu ?
Alors pourquoi ? En fait, parce que dans la lande dans laquelle j'habite, j'étais allée me balader avec mes parents, je devais avoir 4 ans, et mes parents ont voulu, je pense, marquer mon imagination pour que je fasse très attention, et donc ils m'ont montré un serpent. Ils ont pris un petit caillou et balancé au serpent, et le serpent s'est déplié, il est parti, et ma mère m'a dit, maintenant tu comprends pourquoi tu dois toujours mettre des bottes quand tu sors, parce que il y a des serpents et il faut faire attention. Et je pense que c'était ma manière à moi d'apprivoiser ce qui faisait peur. C'est que, bon, j'écrivais pas à 4 ans, hein, mais j'ai imaginé cette histoire d'amis qui serait un serpent bleu et qui me suivait partout et donc qui ne me faisait plus peur en fait.
Un des personnages demande à Sydney à quoi ça sert d'écrire, et elle répond déjà à comprendre.
Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai cherché avec Faust, c'est-à-dire à comprendre ce qui pouvait me faire peur dans le fait de vieillir, comprendre ce qui m'arrive en fait. L'idée, c'est que écrire me permet de comprendre ce que je vis, je crois, beaucoup plus.
Elle dit aussi, c'est comme écrire un roman, tu pars avec une idée et lorsque tu arrives à la fin, tu te rends compte que le truc ne ressemble à rien de ce que tu avais prévu au départ. Et ici, Stéphanie Janicot, puisque la fin est en effet très inattendue, est-ce que vous saviez que vous alliez aller vers cette conclusion ?
Non, pas complètement. Pas complètement. Il y a des choses que je sais quand même avant de commencer, et notamment, vous avez parlé tout à l'heure d'Agatha Christie, et j'adore Agatha Christie, et c'est vrai que j'aime mettre dans mes livres cette chose que j'aime chez Agatha Christie, qui est le retournement final, où on a saupoudré d'indices au fil du livre, et le lecteur se dit « Ah oui, si j'avais prêté plus d'attention, j'aurais découvert la solution. » Donc, qui dit Faust dit le diable, puisque forcément, il y a un pacte avec le diable. Donc, forcément, Sidney va être amené à rechercher qui est le diable sur cette île. Et c'est là où je me suis amusée à dissimuler le diable. Le diable est peut-être Faust, peut-être... Bon, bref, un des personnages, en tout cas. Et ça, je savais d'avance, effectivement, qui était le diable.
Le vrai diable.
Le vrai diable. En revanche... Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, et notamment, je ne savais pas si Sidney résisterait à la tentation. J'ai eu un autre livre comme ça qui s'appelait La Constante de Hubble. C'était l'histoire d'un couple qui se séparait en début d'été. Et en fait, pendant tout l'été, la femme se disait « Est-ce que je le quitte vraiment? Est-ce que je le quitte pas ?» Et je le savais pas. Je savais où se finissait la scène finale. Je savais que c'était une entrevue entre les deux, mais je ne savais pas quelle décision elle prendrait. Et c'est d'avoir écrit le livre où j'ai su quelle décision elle pouvait prendre. Et là, c'est à force d'écrire, j'ai su de manière nette la décision que pouvait prendre Sidney.
C'est l'écriture performative presque.
Oui.
C'est en écrivant qu'on agit.
Oui, oui, j'en suis convaincue. Et l'écriture protège. Elle est comme une maison en fait autour de moi. Et quand j'entre dans l'écriture, j'ai l'impression d'être protégée. Évidemment, quand j'en sors, je ne le suis plus.
On ne va pas dévoiler évidemment le choix de Sidney, mais si vous aussi vous aviez le choix dans la vraie vie, Stéphanie Janico, de faire un pacte ou de garder votre vie telle qu'elle est. Quelle serait votre décision ?
Oh, ce serait très difficile si j'avais vraiment ce choix à faire et si... ce serait difficile.
Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la cure de rajeunissement dans votre roman, ça marche.
Ça marche, et ça marche très bien. Oui, elle marche très très bien. C'est-à-dire que oui, elle rajeunisse vraiment et c'est très joli. Hein, c'est pas... voilà.
Donc, vous ne
Donc c'est
pas.
Très tentant. Je crois que j'irai vers l'âge, finalement, en fait. Je ne crois pas que j'ai envie que mon âme tombe dans l'escarcelle du diable.
Sidney dit qu'elle est une auteure heureuse, même si peut-être elle n'a pas autant de succès qu'elle pourrait en avoir. Mais elle est heureuse d'écrire, tout simplement. Et vous, Stéphanie Janico, vous êtes une romancière heureuse?
Très. Vraiment. En tous les cas, je suis reconnaissante à la vie de m'avoir permis de pouvoir écrire tous ces livres qui m'ont accompagnée. C'est ce que je voulais quand j'étais jeune, en fait. Et j'avais grande crainte de ne pas réussir à l'accomplir. Donc j'ai été une jeune femme très anxieuse. Très, très anxieuse et avec une peur, panique du temps qui passait, en me disant « mais jamais j'arriverai à faire ce que j'ai à faire ». Et mon grand souhait était d'arriver à la fin de ma vie avec comme des livres de papier qui s'amoncelleraient et qui créeraient ma statue, enfin la statue que je laisserais de moi. Et je pense que chacun de mes livres, la vingtaine, raconte un petit morceau de mon existence et s'accorde avec... Alors tous les livres, je n'accorde pas la même importance à tous, mais... Ils disent tous quelque chose de très personnel de moi et ils me ressemblent bien finalement. Donc je peux pas me plaindre de ce que j'ai écrit. Je ne pouvais écrire que ces livres-là et certainement pas d'autres. Et je suis vraiment reconnaissante à la vie d'avoir réussi à le faire et à ce qu'il soit publié. Parce que quand même, je serais jamais assez reconnaissante à mon éditeur Albin Michel d'avoir publié tous mes livres.
Une écrivaine heureuse et puis une lectrice passionnée. À ce titre, vous avez rejoint le jury Renaudot, qui est d'une certaine façon le petit frère du Goncourt. Vous aviez d'ailleurs été récompensé par le prix Renaudot Poche pour ce livre que vous mentionniez tout à l'heure, La mémoire du monde. Est-ce qu'être membre d'un grand prix, ça modifie la lecture ?
Alors, pas complètement, parce qu'en fait, je lis déjà beaucoup depuis des années, parce que mon métier, c'est aussi de sélectionner des livres pour les mettre en face de lecteurs, enfin pour que les livres trouvent leur lectorat, et je l'ai fait pour des journaux tellement divers que je me suis habituée aussi quand même à tenir vraiment compte du lectorat et du lecteur, et j'appartiens aussi à d'autres jurés de prix, donc quand j'arrive là au Renaudot, je suis quand même habituée à lire beaucoup. Ce que ça modifie, c'est le côté massif de la lecture. C'est-à-dire que j'ai toujours été habituée à lire beaucoup l'été parce que je devais rendre des papiers pour la rentrée littéraire. Là, c'est plus que beaucoup. C'est-à-dire que j'ai passé tout mon été à ne faire que lire. Et depuis que je suis rentrée, normalement, j'aurais dû passer à autre chose. Ben non, parce que là...
Parce que le calendrier des prix avance.
Voilà, et puis...
Que vous allez rendre des sélections jusqu'à l'annonce du prix le 3 novembre.
Voilà, exactement. Donc je continue à lire, à lire, à lire.
Ce que ça va modifier, en revanche, c'est que vous ne pouvez plus être jugé parti.
Oui.
Et que sans doute, ça va exclure vos prochains livres, oui, de la rentrée littéraire.
Absolument, absolument.
Ça, c'est très courageux pour un écrivain de faire une croix symbolique sur un probable Goncourt.
Je le savais en acceptant. C'était effectivement, mon livre est sorti en rentrée littéraire parce que il avait été programmé avant que je sois élue au jury Renaudot, donc c'est ma dernière rentrée littéraire. J'aimais beaucoup la rentrée littéraire parce qu'en fait, je suis née le 28 août et j'avais toujours l'impression que c'était mon cadeau d'anniversaire de sortir un livre en rentrée littéraire. Eh bien, j'aurais d'autres habitudes. Et effectivement, je sais que j'aurai plus jamais un prix littéraire. Après, je trouve ça passionnant, en fait, d'être dans ces débats de lecture. Et je regrette pas une seconde. Non, je suis contente de ce que j'ai choisi.
C'est un peu à l'image de votre roman, c'est-à-dire préférer ce qu'on aime vraiment plutôt que de courir l'illusion.
Oui, sans doute. Enfin, je sais pas si j'ai cette sagesse à un point pareil. J'espère que l'avancée en âge me fait devenir sage, mais enfin, j'en suis pas complètement convaincue. Mais
ce livre a pu y contribuer, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, oui, bien sûr.
En tout cas, sans parler de sagesse, peut-être vous donner plus de légèreté.
Ah, ça, c'est tellement vrai. Et d'ailleurs, c'est exactement, je crois, ce que je recherchais. Et alors, je ne dévoile pas la fin en disant que la recherche est cette recherche de légèreté, justement. Et ce sera évidemment le thème du prochain livre, complètement. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de léger. Et pour moi, la légèreté est très profonde. C'est-à-dire que c'est presque cette phrase de Paul Valéry, le plus profond, c'est la peau. C'est-à-dire on croit que c'est ce qui est superficiel, mais ce qui est superficiel est profond.
Merci beaucoup, Stéphanie Janicot, pour ce roman qui fait le pari de nous faire croire à l'impossible, à l'irrationnel, au fantastique, et qui réussit parfaitement son pari en nous plongeant dans ce monde parallèle où existe le merveilleux. Une lecture vraiment qui nous enchante, et un enchantement peut-être comme un sortilège que vous nous avez envoyé. Oui, c'est parfaitement enchanteur. Je rappelle le titre « L'île du docteur Faust » aux éditions Albin Michel.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.